Je préviens tout le monde que si vous avez l'impression que je fais de la propagande, ben c'est... Non, t'as... non, même pas. Mais malas. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaishlach. Vaishlach. Ok ? T'as un livre ?
Je suis là, il est là.
Il faut l'ouvrir. Vaishlach. Tiens, d'ailleurs, j'ai pensé à toi. Je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière. Mais vu que tu es une fan du Zohar, il y a une question, Bémette. Il y a une question, j'étais donné cours la semaine, enfin, Shabbat, là, dans une Keila où il y a des Chabadnikim, des Chabad. Et il y a une question, il y a un mec qui m'a posé une question, il m'a dit comment ça se fait que Yaakov Avinu, il s'est marié avec deux sœurs. Ah, mais c'est assourd. Alors, effectivement, tu peux dire. Alors, je lui ai dit, je lui ai fait une réponse en plusieurs étapes. Je lui ai dit, regarde, d'abord, on est avant le don de la Torah. On m'a dit, oui, mais Rachid, il a dit que les Avot, ils faisaient la Torah bien qu'elle n'ait pas été donnée. Je lui ai dit, Nachon, tu as raison. Donc, il va falloir trouver une autre raison. Alors, je lui ai dit, il m'a dit, ok, alors quoi? Alors, je lui ai dit, tu peux prendre l'explication du Ramban. Le Ramban, il a une explication très sioniste de pourquoi Yaakov, il a marié deux sœurs. Il dit pourquoi, et on l'a étudié ensemble. Il dit parce que, qu'est-ce qui nous oblige aujourd'hui à faire les mitzvot en Chutz La'aretz? On a dit, les rabbins. Les rabbins nous ont dit que bien qu'on n'aurait pas dû le faire, pour ne pas oublier comment on doit les faire quand on revient, alors on les fait quand même. Seulement Yaakov, lui, il n'a pas besoin de se rappeler. Ou Kadosh. Donc le Ramban, il dit, bah oui, il s'est marié avec deux sœurs, bien que ce soit interdit par la halakha, parce que c'était le Chutz La'aretz. Et quand il est rentré en Israël, bah une des sœurs est morte. Comme ça, il n'était pas en Israël marié avec deux sœurs. Tombe bien, hein? Ok, donc ça c'est l'explication du Ramban. Je lui ai dit, mais il m'a dit, ouais, mais je le sens pas. Alors je lui ai dit, Tov, t'as l'explication du Zohar, peut-être que ça va plus te convaincre. Et le Zohar, il dit un truc très fou, il dit, alors évidemment, c'est pas à prendre au pchat, c'est le Zohar. Il dit, non, mais il n'y a pas de problème, en fait, Yaakov, il ne s'est pas marié avec deux sœurs. Yaakov, il s'est marié avec Rachel, et Israël, il s'est marié avec Léa. On sait que Yaakov, maintenant, commence à avoir une double identité. Bon, maintenant, il y a l'explication de la halakha pure et simple. La halakha pure et simple dit que Rachel et Léa, c'était quoi leur religion à la base? Mais si. Comme leur père. Donc, à savoir, idolâtre. Yaakov, lui, il est Oved Hashem. Donc, qu'est-ce qu'il fait avant de se marier avec elle? Il est converti. Ah bon, bah alors si elles sont converties, d'après la halakha, elles sont plus sœurs.
Ah ouais, ça ouais. Va bien. Ah
bon, ça enlève les liens familiaux. Donc techniquement, il est ça va. Non. Alors après, je lui ai dit tout ça, il m'a dit ah ok. Je lui ai dit, mais ça m'étonne quand même. Et c'est un vrai, hein. C'est un vrai avec la beubar, le chapeau, tout ce que tu veux, un vrai Chabad. Je lui ai dit, ça m'étonne quand même que tu ne connaisses pas, à mon sens, celle qui est la meilleure explication, celle du Rabbi Lubavitch. Il a donné une explication pourquoi est-ce que Yaakov s'est marié avec deux sœurs. Très belle explication, il y a une très belle sikha sur la paracha de Vayetse, où il explique que en fait c'est Alpi Apshat qu'il était obligé de se marier avec deux sœurs d'après la halakha. Parce qu'il avait promis à Lavan quelque chose, machin, en fonction de sa parole, il était obligé de le faire. Donc voilà. Ça pour dire que Yaakov s'est marié avec Rachel, Israël s'est marié avec Léa, et on peut commencer maintenant. La semaine dernière, on a parlé de la paracha de Vayetse, on a dit que c'était la paracha prototypique de la descente en exil. Vous vous rappelez? Et donc, tout naturellement, la paracha de cette semaine, elle est fondamentale parce que si la semaine dernière c'était la descente en exil, cette semaine c'est quoi? C'est la sortie de l'exil. C'est-à-dire que la paracha qu'on va lire maintenant, elle doit absolument se remettre dans le contexte de chaque sortie d'exil. Comprenez bien ce qui a marqué dans le traité de Megillah, dans le Talmud, dans le traité de Megillah à la page 14. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué Nevoa sheutzrecha ledorot nichteva ve Nevoa she lo utzrecha ledorot lo nichteva. Ce qui veut dire une prophétie qui sert les générations est écrite, une prophétie qui ne sert pas les générations, qui est uniquement temporaire, elle n'est pas mentionnée dans la Torah ou dans le Tanakh. Un truc qui est fou, c'est que, à votre avis, combien de prophètes on a eu dans le peuple juif? 60, 10?
Non.
Je sais pas, t'avais pas l'air convaincu.
Non, je suis pas sûre.
70?
On sait pas parce que.
On sait pas?
Il y avait des problèmes.
Bien, le Talmud il dit qu'on a eu Kiflaim Keyosem Mitzrayim. Wow. Deux fois plus de gens qui sont sortis d'Egypte. C'est-à-dire combien on est sortis d'Egypte? 600 000. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a eu 1 200 000 prophètes dans l'histoire du peuple juif. C'est ouf. Seulement, on n'en parle pas de tous ces gens-là. Nakhon, on n'en parle pas. Il y a plein de prophètes qui peut-être ont eu une seule fois dans leur vie une prophétie et qui étaient uniquement pour un endroit donné. Par exemple, vous connaissez peut-être la ville de Lachish. Non, c'est dans la Shvelat Yehuda, peut-être un jour on fera un tioul là-bas. On a retrouvé la ville antique de Lachish, une ville de l'époque du premier temple. Et on sait, d'après le Tanakh, que c'est une des villes qui a été assiégée par les Assyriens. Maintenant, on a retrouvé dans la ville de Lachish plein de morceaux d'argile qui servaient de lettres à l'époque. On écrivait sur de l'argile. On a trouvé plein de morceaux, on a pu reconstituer plein d'écrits. Par exemple, un écrit qui est envoyé à Hizkiyahu Melech Yehuda. Ok, parce qu'il y a une place forte à Lachish, et il y a l'armée assyrienne qui arrive, et il envoie un rapport au roi à Jérusalem. Et c'est super important, c'est très sympa ce qu'il dit, et on voit qu'il fait le décompte des réserves, le décompte des troupes, le moral des troupes, et à un moment donné, dans le rapport, il dit « Ve'a Navi Amar ta 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 ». Ça fait partie du rapport, qu'est-ce que le Navi il dit ? Maintenant, on ne connaît pas ce Navi. Tout ça pour dire qu'il y a plein de Nevi'im qui ont parlé, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Mais les Nevi'im qui ont été marqués dans la Torah, ça veut dire que leur prophétie a une importance pour nous, pour les générations. Ce qui veut dire que ce qu'on va étudier là maintenant, évidemment, se replace dans ce contexte-là. Très souvent, lorsqu'on étudie des trucs, on dit « Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite et involontaire. » Eh bien là, ce n'est pas le cas. Toute ressemblance avec un cas actuel est volontaire à fond. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, forcément, est calqué sur ce que le prototype de la sortie d'exil nous donne dans la Torah. Adkan, on est bon ? Ça va. Ben, alors on peut y aller. Et on avait dit la semaine dernière, je crois qu'on avait terminé là-dessus, en disant quelle est la première étape de la sortie d'exil, lorsque Yaakov finalement se sépare de Lavan. Vous vous rappelez ce qu'on a dit ? Que finalement ils ont conclu une alliance.
Ah oui.
Ouais.
Le nom de
la montagne. Yafé. Et que le nom de l'endroit où ils ont conclu l'alliance, Lavan l'a appelé Yegar Sa'aduta, ça veut dire un monticule de témoignage. Et Yaakov, il l'a appelé Galed, ce qui veut dire un monticule de témoignage aussi. Seulement, il l'a dit en hébreu. La première étape de la sortie de l'exil, c'est reparler hébreu. C'est-à-dire reparler comme un juif. Je ne sais même pas si je vous ai parlé de Yosef à ce moment-là. Je vous ai parlé de Yosef ? Hein ? Non, mais dans ce contexte-là. Vous savez comment Yosef s'est dévoilé à ses frères ? Alors, Chazal, ils disent qu'il leur a parlé en hébreu. Aval, ils disent non, il ne leur a pas parlé en hébreu. Il leur a montré sa orla, qu'il n'en avait pas. Il leur a montré sa brit mila. Et là, Chazal, il se repose une question. Il dit, comment ça ? Comment ça ? Là, dans le palais pharaon, on dirait qu'il a enlevé la jupette. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ils disent non. Il dit, en fait, il leur a parlé en hébreu. Et comme il leur a parlé un langage juif, ils ont compris, les frères, qu'il était brit milé. C'est-à-dire, un juif, il ne parle pas comme un goy. Oui, c'est un verbe que j'ai inventé. Qu'est-ce qu'il y a ? Le brit milage, qu'est-ce qui se passe ? Ah, la circoncision, oui, j'aurais pu. Ça aurait été moins drôle. Oui ?
Un goy qui parle hébreu, il ne parle pas comme un juif.
Non, c'est pas une question seulement de langue, en fait. C'est pas une question simplement de quel langage j'utilise. Il y a des... Arrête, tu sais bien que chaque personne, chaque identité humaine, quand elle parle, elle draine avec lui un bagage culturel, qu'elle le veuille ou pas. Mais c'est pas seulement une question de langage. Ce bagage culturel qui est celui d'Israël, ça peut pas être le même que celui de la France ou celui de la Norvège. Ça veut pas dire qu'il est mieux ou moins bien. C'est un bagage culturel qui est le nôtre. Ok ? Il faut revenir à ça. Ça va là ? Yovi. Alors, c'est parti. Je vous préviens, on terminera pas le cours tant qu'on n'ait pas fait un petit exercice. D'ailleurs, regarde, tu vas sortir, tu vas aller dans mon vélo. Il y a une pochette devant avec un truc bleu avec plein de feuilles dedans. Tu le ramènes. Bekitson, on est parti. Parasha, Veïcha, Shalom. Ça va ? Tu as dormi ? Alhamdoulilah. Alors c'est parti. Vaishlar Perek Lamedbet, verset Dalet. Ok ? Vaishlar Yaakov Malachim Lefanav Elisavachim. Toda. Vu que vous avez réussi à dévoiler le code de la photocopieuse, qui c'est qui a le code de la photocopieuse ? Toi, tu l'as ? Tu me fais cette photocopie-là. Je sais pas, t'en fais 30. Ok, juste ce côté-là. Et tu lis pas. C'est bon, on peut y aller. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Alza Seir Sede Edom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle t'a mouillé ta feuille ?
Non, je
sais pas.
C'est combien, je l'ai mis ? Hein ?
Ça va aller ?
C'est pas l'eau qui est tombée.
Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv. Yaakov s'en va, d'accord ? Yaakov sort de chez Lavan, ça y est, il sort d'exil, il va revenir en Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire Yaakov qui revient en Israël ? Il faut comprendre, c'est pas que un personnage qui revient. Quand Yaakov, qui est Israël, c'est donc la base du peuple juif, jusque-là vous me suivez ou je parle tout seul ? La base du peuple juif, elle est partie en exil. Quelle était notre place en tant que nation quand on était en exil ? Est-ce qu'on en avait une, Bichlal ? Non. Même si les goïms, eux, savaient qu'on était une nation, ils nous ont toujours appelés comme tels, nous, on ne vivait pas en tant que nation, on n'avait pas la possibilité. On était soumis dans les pays dans lesquels on habitait. Ce qui veut dire que sur le plan national, international, le peuple juif était en, je sais pas, était en état de coma. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas en tant que nation. Qui donc gérait le monde ? Puisque nous, on n'était plus dans les gens qui géraient le monde. Qui a pris sur lui de gérer le monde ? Puisque Yaakov ne le fait pas. Hachem ? Hachem, tu as raison, de manière générale, c'est lui qui gère.
Esav.
Mais concrètement, voilà, Esav. Esav, Edom, le monde occidental. Quand on n'est pas là, bah c'est eux qui ont pris les rênes du truc. Maintenant, toi, tu veux sortir d'exil maintenant. Todaraba. La moindre des choses, c'est de faire quoi ? Il y a un mec, imagine.
Ah, c'est de remercier.
Bah, avant de le remercier, la mais surtout. Le prévenir, lui demander. Ah, oui. Tu n'es pas d'accord ? Alors imagine, t'habites quelque part et tu décides de partir. Tu pars. Pas on t'a mis dehors, tu pars. Ok, tu es parti pendant 20 ans. Peut-être un mec qui a pris possession des lieux, entre temps. Tu veux revenir ? Bah, la moindre des choses, c'est de lui dire. De lui demander la permission. Et donc, c'est ce qui va se passer ici. Yaakov, avant de pouvoir rentrer, il est obligé d'envoyer des gens prévenir Esav de son retour sur la scène mondiale. Et bien, vous remarquerez qu'à chaque fois que le peuple juif sort d'exil, il se passe la même étape. Il y a une étape préparatoire qui est le fait de demander la permission au goïm. Là, c'était l'exil prototypique de Yaakov. Le premier exil véritable du peuple juif, c'est quand on était en Égypte. Quand on sort d'Égypte et qu'on s'apprête à rentrer en Israël, eh bien, qu'est-ce que Moshe va faire dans la paracha de Roukat ? Il va envoyer des malachim, El Melech Edom. Il envoie des envoyés au roi de Edom, Esav qui est devenu Edom, pour lui dire, voilà, on aimerait bien rentrer. De la même façon, l'exil suivant, c'est l'exil de Babylone, eh bien, on ne pourra pas rentrer en Israël tant qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle Hatzarat Koresh. Arrête, on est parti en exil parce que les Babyloniens sont venus et ils ont conquis le monde. Ok, jusque-là, vous êtes d'accord ? Entre-temps, 52 ans après la destruction du Temple, les Babyloniens ont été battus par les Perses. Ce qui veut dire que maintenant, les patrons du monde, c'est qui ? C'est les Perses. Qui est le patron des Juifs, donc, de facto ? Les Perses. Si maintenant le peuple juif veut sortir d'exil, il faut la permission des Perses. Or, cette permission, on l'a reçue. On l'a reçue de la part de Koresh, en français Cyrus, roi de Perse, empereur de toutes les Perses, qui a donné la permission au peuple juif de rentrer à la maison et de reconstruire le Beth Amikdash. Cette déclaration de Koresh, c'est pas seulement marquée dans la Torah, elle est marquée dans le Tanakh, dans le livre de Ezra, mais elle n'est pas seulement marquée là-bas, on l'a retrouvée. Elle a été écrite. Elle a été écrite sur une pierre de cette taille-là, ronde, circulaire. On l'a retrouvée. Genre, on a la déclaration Koresh qui a été écrite il y a près de 2500 ans. Et le mec, il donne la permission aux Juifs de rentrer et construire leur temple à Jérusalem. Pas mal. Donc, à partir du moment où on a eu la permission de rentrer à la maison, bah alors c'est bon, on peut y aller. D'accord ? Nine. À l'époque de Koresh, vous savez ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ? Vous savez, le roi des Goïms, il a dit, vous pouvez rentrer contre le Beth Amikdash. Donc forcément, tu vas me dire, tous les Juifs, ils veulent rentrer.
Bah non.
Personne ne vient. Il y a Zerubbabel ben Shaltiel qui vient, parce que le Navi lui a dit, allez, c'est le moment, et il réussit à amener avec lui max 2000 personnes. Sur tout le peuple juif. Et je veux pas te dire à quoi ressemblent les gens. Tous les mecs qui viennent, c'est des violeurs, des meurtriers. Les mecs, ils savent même plus ce que ça veut dire Shabbat. Ils ont changé le jour de Shabbat en Yom Shuk. Ils savent même plus ce que c'est Arbat Aminim. Non. Les mecs, ils ont tout lâché en 70 ans. Et eux, ils reviennent. Tous les autres, ils reviennent pas. Ah, bah parce que, attends, on est bien à Babylone, finalement. On a construit des yeshivot, on a des restaurants cachés. Et tous les rabbanim, ils restent à Babylone. Juste après l'histoire de Koresh, hein.
Pourquoi c'est... guillemets.
Ah, parce qu'ils n'avaient plus rien à faire. Ils n'avaient rien là-bas. Donc, les gens qui ont rien à un endroit, on leur dit, il y a un nouveau monde qui s'offre à toi. Et tu dis, ok, j'ai rien à perdre. Mais tous les gens qui avaient un peu du kiff, que ce soit matériel ou spirituel d'ailleurs, ils se disent, attends, pas exagéré. Maintenant, le problème, c'est que juste après l'épisode de la déclaration Koresh, il y a un épisode moins sympa, Pourim. Pourim, on a failli tous se faire massacrer. Juste après Pourim, il y a Ezra et Nehemia qui refont une deuxième tentative de ramener les gens en Israël, de reconstruire le deuxième temple. Là encore, ils réussissent à drainer avec eux quelques milliers de personnes. Les Juifs ne veulent pas sortir d'exil. Ça y est, 2000 ans, on a pleuré. Finalement, Dieu il nous a donné l'indépendance de l'État d'Israël, et là, des avions. Les Juifs, ils ne veulent pas venir. Maintenant, attendez, ça va être beaucoup plus grave que ce qu'on dit. Koresh, donc, il a donné la permission. Voilà. Si ce que je dis est vrai, qu'à chaque fois qu'on sort d'exil, on doit reproduire le même schéma, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Est-ce que dans notre sortie d'exil, parce que oui, on est sorti d'exil, Baruch HaShem, depuis maintenant près de 70 ans, hein, 69 ans, on est sorti d'exil, alors, est-ce qu'il s'est passé le même schéma de les nations qui doivent nous donner la permission ?
Bah oui.
C'est ce que je demande. Oui, tu dis oui ? Quand ? Qui ? Que ? Quoi ? Alors, il y a fait, tu dis l'ONU, mais viens, on va avant. Déjà avant, il y a fait mode. En 1917, il va y avoir ce qui s'appelle... Non. Ça, c'est l'ONU. Ça, c'est l'ONU. Deux secondes. D'abord, en 1917, vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe en 1917 ? C'est la Première Guerre mondiale. Elle va opposer plein de forces, en l'occurrence l'Angleterre, contre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman sont alliés des Allemands. Maintenant, Israël appartient à l'Empire ottoman. L'Angleterre va battre l'Empire ottoman, va conquérir la Palestine. Avec le général Allenby qui rentre, c'est pour ça qu'il y a des rues Allenby à Tel Aviv et partout. Ok ? Et lorsqu'ils arrivent, eh bien, le ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté à l'époque, il s'appelle Lord Balfour. Et il va écrire une déclaration, la déclaration Balfour, dans laquelle il dit « L'Angleterre se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine. » En d'autres termes, vous avez la permission de revenir vous installer ici. Alors vous allez me dire « Ouais, mais l'Angleterre, c'est pas toutes les nations !» C'est vrai. C'est pour ça que trois ans plus tard, en 1920, à San Remo, eh bien, la SDN, l'ancêtre de l'ONU, va ratifier la déclaration Balfour. Et ça va donner une réalité encore plus forte lorsque le 29 novembre 1947, l'ONU va voter la résolution de la création d'un État d'Israël. Ok ? Donc ça veut dire que même dans notre génération, ça a marché. Mais le problème, c'est que si je suis arrivé à notre génération et que j'ai évoqué Pourim tout à l'heure, il faut évoquer aussi le danger. Ben oui. C'est quoi le danger ? Le danger, c'est qu'il y a toujours un temps entre le moment où l'exil a pris fin, parce que les nations nous ont dit « vous pouvez partir », et où concrètement il a pris fin. Et ce temps-là est très, très, très dangereux. Regardez ce qui se passe. « Vaïchtar Yaakov malachim lefana velesav achiv arza seir sede edom. Vaïchtar otam lemor, kotomrun la adoni le Esav. » Qu'est-ce qu'il faut dire à Esav ?« Ko amar avdecha Yaakov im lavan garti » Regardez ce qu'il y a marqué « Imlavan garti ». Regardez ce que dit Rashi. Vous avez Rashi ? Vous l'avez ou pas ? Vous avez un Rashi ? Regardez ce qu'il y a marqué dans « Davar Acher », la deuxième explication de Rashi. Vous l'avez ?
On est où ?
Dans Rashi, dans le pasouk « Hey ». Dans ce qu'il y a marqué « Davar Acher ». Après, il y a le Rashi de « Garti » et dans l'explication, il y a « Davar Acher ». Tu l'as ?
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ?
Que Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag.
C'est pas les mêmes lettres, c'est la valeur numérique que Tariag. Kelomar, Imlavan, Arasha, Garti, Vetariag, Mitzvot, Shamarti.
Et tu gardais 113 Mitzvot.
Donc, Yaakov, il dit : tu diras à Esav que je suis resté juif pendant l'exil. J'ai gardé mon identité. Maintenant, au-delà de ça, moi j'ai envie d'aller plus loin. C'est que Yaakov, c'est un tzadik. Le mec, il a réussi à faire Tariag Mitzvot. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible.
Ouais.
Parce qu'il y a des Mitzvot qui sont pour les femmes, dans les 613. Mais Zolom Chané, il vient te dire quelque chose. Il vient te dire que moi, je suis plein de Mitzvot, j'ai pas d'Averot. Nachon ? Yaakov, il dit, je reviens vers toi, mais j'ai aucune Averot. Et c'est là qu'est le problème. Les filles, je suis obligé d'arriver avec le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 98. Parce que là-bas, on nous parle d'un des fondements du judaïsme. Un de ceux qui s'appelle les 13 articles de foi du Rambam, le 13e, il dit Fola Amin Bebiata Mashiach. Ça fait partie des bases du judaïsme, d'admettre que le Mashiach va venir, Yofi. Et bien sachez qu'il y a 3 rabbins parmi les plus grands Amoraïm, donc des mecs de la Gemara, qui ne voulaient pas. Ils ont dit à propos du Mashiach, Yete Velo Achmine. Ce qui veut dire qu'ils viennent, j'ai pas envie de le voir. Wow, ça arrive. Pourquoi? Chacun, ils ont un problème avec le Mashiach. Ils ont un problème genre une flip. Genre, ils ont un problème pas genre... Non, ils ont peur. Ils ont peur de ce que va accompagner le Mashiach. Alors, il y en a un qui a peur de la chute spirituelle du peuple juif. On n'en parlera pas aujourd'hui. Il y en a un qui a peur du quoi? Du problème palestinien. On n'en parlera pas non plus aujourd'hui. Mais il y en a un autre, un des trois, qui s'appelle Rabba. Lui, il a peur d'un autre problème. Il a dit, Yete velo achmine. Qui vienne, je ne veux pas le voir. Pourquoi? Parce que, à l'époque du Mashiach, juste avant le Mashiach, il y a ce qu'on appelle Chevle Mashiach. Chevle Mashiach, ça veut dire les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Et ce sont des douleurs qui doivent, d'après Rabba, dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Ok? Et donc, hein? Le premier, il y en a un qui dit, il a peur de la chute spirituelle du peuple. Ensuite, le deuxième, c'est Rabba. Le troisième, c'est Rabbi Yochanan, il a peur du problème palestinien. Oui? Pourquoi on doit quoi? Ah, pourquoi on doit avoir beaucoup de douleur? Oui, parce que Chavalim, c'est aussi un mot qui est utilisé, Bezrat Hashem Ishtabach, Shemo, Inshallah, bientôt pour toi, lorsque tu auras un enfant. D'accord? Eh bien, il y a ce qu'on appelle Chevle Leda, les douleurs de l'enfantement. Bah, quand tu vas enfanter ton enfant, même si aujourd'hui, bah, au Hachem, il y a la péridurale, ma femme, elle avait 2 enfants qu'elle ne veut plus prendre la péridurale. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, parce que je veux sentir ce qui est en train de m'arriver. Donc ma femme, elle a décidé consciemment de ne pas prendre la péridurale. Bah, donc elle a, je peux te dire que les douleurs de l'enfantement, tu les sens. Mais non. Ah pourquoi? Non, pourquoi elle a fait ça? Parce que ma femme est dans le trip, faut être bari, faut être sain. Et donc faut manger bien, faut manger sain. Évidemment, ça ne se voit pas sur moi, mais faut manger bien, faut manger. Je lui dis, tant que ça arrive pas dans mon assiette, tu fais ce que tu veux. Elle mange du quinoa, ma femme. Tu comprends le level. Ok? Maintenant, oui, c'est bien sûr. C'est ce qu'on essaie de se dire. Mais en tout cas. Elle a choisi ça, mais non, il y a plein de raisons médicales pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas prendre la péridurale, parce que ça fait... Le fait est que... Le fait est que, il y a des douleurs de l'enfantement. Maintenant, il paraît que c'est des douleurs que... Enfin, moi, je n'ai jamais vécu, tu vois, mais il paraît que c'est très très dur. Maintenant, il y a un truc qui va sortir à la fin. C'est quelque chose d'énorme. Physiquement, je peux t'expliquer aussi pourquoi il y a des douleurs de malade. Il y a quand même un truc énorme qui va passer par toi. C'est normal qu'il y ait des douleurs. C'est-à-dire que quand tu enfantes quelque chose de grand, c'est normal que le monde du passé, il soit complètement chamboulé par ça. Ok? Et donc le Mashiach, si c'est véritablement grand, et ça l'est, c'est normal qu'il y ait des douleurs terribles qui l'enfantent. Maintenant, Rabba, il a très très peur de ça, à tel point qu'il ne veut pas venir. Je fais une parenthèse, qui n'en est pas une, aujourd'hui on sait ce que c'est des douleurs de l'enfantement. Des douleurs comme on n'en a jamais eu, comment ça a un nom. Ça a été quoi les douleurs de la Géoula?
La Shoah.
Agave, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu comme moi dérangé de la tête par la Shoah, et que ça vous intéresse de savoir ce que les rabbanim, ils ont dit pendant la Shoah, les rabbanim qui étaient là-bas. Ouais. C'est assez incroyable d'avoir des fois des témoignages de rabbanim qui enseignent la Torah dans le ghetto de Varsovie. Tu vois, je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance. Parmi eux, il y en a un qui est le rabbi Kaminos Kalman Mepirsetzna, celui qui est plus connu sous le nom du livre qu'il a laissé. Esh Kodesh. Il écrit un livre tous les Shabbats, il donnait un Dvar Torah à Varsovie dans le ghetto, alors que chaque Shabbat il manquait des gens. Parce qu'il y avait des gens qui étaient morts. Et pourtant, c'est quelqu'un qui donne un Dvar Torah chaque Shabbat, où chaque Shabbat il fait un procès d'intention à Dieu. C'est incroyable. Mais chaque Shabbat il est là, il dit qu'on a besoin de lui, même dans les douleurs, machin, machin. Et il raconte Hanouka, le seul Dvar Torah qui nous reste de lui, Hanouka 1942. Donc est-ce qu'on est fin décembre ou début janvier, faut que je vérifie. Mais en tout cas, hein, Hanouka 1942, c'est la date où va commencer officiellement la solution finale. les chambres à gaz, les fours crématoires. Avant, c'était une exécution qui était plus artisanale. Il est mort dans le ghetto d'Arsovie. Maintenant, il écrit que jusqu'à présent, les douleurs qu'il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est des douleurs qu'on a toujours connues. Ah, les pogroms, les attaques, ça, les exécutions. Il dit, Archav, Zemitot, Meshunot, c'est jamais arrivé. Archav, c'est quelque chose de différent. Et donc, effectivement, on comprend la Shoah, ça n'a rien à voir avec un simple pogrom à grande échelle. Ok ? Donc, les douleurs de l'enfantement de la Géoula, on les connaît aujourd'hui. Oui ? Les Tu m'as entendu ce que tu as dit ? L'Égypte ?
Ouais.
Ah non, l'esclavage en Égypte, c'est pas les douleurs en soi. Les douleurs en soi, c'était quoi ? La dernière année. C'est-à-dire, quand toi tu parles de l'Égypte, c'était très très dur, les Égyptiens ils étaient pas cool et tout, et tu regardes le Midrash qui te dit mettez les enfants dans les briques, machin. Ça, c'était un an. Sur les 210 ans d'esclavage. Donc il y a eu à la fin un moment où c'était très dur. Tout le reste c'était Sababa. N'oublie pas que pendant près de 80 ans il y avait encore Yosef et ses frères. Donc on était super Sababa. Et après l'esclavage il a été très très progressif.
D'accord ?
C'est ? Non, 210 ans c'est à partir de. De quoi ? Non, à partir du moment. Pas de. Non, la naissance de Yitzhak c'est 400 ans. 210 ans c'est à partir du moment où on est arrivé en Égypte, c'est-à-dire avec Yosef.
Oui,
ça commence
après la mort.
De quoi ? L'esclavage ? Les 210 ans, on les décompte à partir du moment où Yaakov est arrivé en Égypte. Donc à l'époque où Yosef est vivant. Yosef va vivre longtemps après la mort de Yaakov. Et après la mort de Yosef, il va y avoir encore ses frères qui sont là. Et à cette époque-là, c'est encore tout bien. Ok ? Et on compte quand même ça dans cette période-là, dans les 210 ans en Égypte. Et tu as raison que l'esclavage, à proprement parler, il a été progressif et il a été vraiment, vraiment dur seulement à la fin. Mais Kitsour, Rabat, il dit j'ai peur, je veux pas voir le Mashiach, je veux pas voir la Géoula. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a des douleurs terribles avant et j'ai pas envie de les voir. Toda Rabat, j'ai pas envie de vivre à l'époque de la Shoah. On peut le comprendre. Nous on sait maintenant, rétrospectivement, ce que c'était la Shoah. On va aller ensemble à Yad Vashem, un jour. Ah bah si. Bah ouais. Quoi,
Gustavo ?
Ça va, tranquille. On fera des blagues. On fera des blagues. Frère ? Bekitsu ! Tout ira bien, tout ira bien. Bekitsu ! Ah, il m'a la saute. Il y a un moment donné, il faut aussi se rappeler de Yamashua, non ?
On l'a été 10 fois, on l'a fait 20 fois.
Ouais, tu vas pas faire avec moi. Mais tu vas pas faire avec moi. Bekitsu ! La bataille ! Oh, c'est pas le problème. Le fait est qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est la Shoah. Et on peut comprendre un rave qui dit j'ai peur de ça. Ok, Bézéd Agamour. Alors il a peur de ça et donc il dit Nine, je veux pas voir ça. Maintenant, Abaye, qui est sa chavruta, elle lui dit mais Rava, je comprends pas. Il n'y a pas de problème. Tu sais bien ce qu'il faut faire pour ne pas être korban de ces douleurs-là. Il suffit que tu sois plein de Torah et Mitzvot. C'est un bon argument ? Il n'y a pas eu de gens qui étaient plein de Torah et Mitzvot dans la Shoah ?
Si.
Donc, Rava lui dit, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que je sais que je suis plein de Torah et Mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais j'ai peur que la faute soit plus importante et me fasse tomber dans la Shoah. J'ai bien dit la faute parce que je traduis littéralement de ce qui est marqué dans la Gemara. Il est marqué Shema Yigrom Achet. J'ai peur parce que peut-être il y a la faute qui va faire que. De quelle faute il parle ?
Adam et Chava ?
Adam et Chava, Zéafemot, ce que tu dis. Non, là pour le coup, mais dans d'autres cas, j'accepterai ce que tu dis. On va voir de quelle faute il s'agit. Il est évident qu'il ne peut pas s'agir d'une simple faute du Shulchan Aruch. Rava. Rava.
C'est un manque de
Emouna. C'est un manque de
Emouna ?
Ardout. Ardout.
Sois pas en Israël.
Alors venez, on va essayer de voir. Vous savez bien, dans la Gemara, quand il y a des gens qui citent quelque chose, ils s'appuient. Sur quoi il s'appuie ? Sur des versets. Eh bien, Rava, il va s'appuyer sur le verset qu'on est en train d'étudier. Il dit, regardez, qu'est-ce qu'il dit Yaakov à ses envoyés ? Il leur dit, tu lui diras à Esav, Im Lavan Gardi, c'est quoi la suite ? Vaechar Adata. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit, quand est-ce que Yaakov il a décidé de repartir en Israël ? À quel moment il a décidé de sortir de chez Lavan ? Yosef. Est-ce qu'il est sorti tout de suite ? Non. Il a stagné encore pendant 6 ans. Pour faire quoi ? Du business. C'est ce que Yaakov dit ici en disant « Va'echar adata ». Ça veut dire quoi « Va'echar » C'est quoi « Va'echar » J'ai tardé, comme plein de fils ce matin. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais pas du tout. J'ai tardé. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important « J'ai tardé » Non, mais c'est pas de vous que je parlais. Hein. Pourquoi vous vous sentez visé? Oh, ce shalom. Pas du tout. Enfin, juste que vous pouvez pas leur dire ça jeudi. Hein. Aux filles, quand vous faites la propagande. Vous leur dites pas, non mais il n'y a pas de problème, Mahonora, tu peux venir à 11h30. Tout va bien. Mais qui te Va'echar adata, j'ai tardé. Maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi c'est un problème, j'ai tardé? D'ailleurs, je me pose une question. Je sais pas si on l'avait dit ou on l'a pas dit la semaine dernière. Mais quand Yaakov part en exil, vous vous rappelez le rêve et tout? À la fin du rêve, Dieu lui fait une promesse. Yaakov, la semaine dernière, le rêve, l'échelle, machin, le rêve de l'exil, Dieu lui fait une promesse à Yaakov à la fin du rêve. Il lui dit, je te garderai pendant tout l'exil jusqu'au moment où je te ramène chez ton père. Donc Yaakov, pourquoi il a peur? Parce que regardez ce qui a marqué. Deux secondes. Vous mettez la pression là tout de suite. C'est quoi, nous? Il est. Deux secondes, je sais, je suis désolé. Où est-ce que je suis, moi?
Dans rapport à lui,
tu n'as pas comparé un enfant de 2 ans et un enfant d'un an?
Une fois, oui.
Ah, mais par exemple, j'ai jamais eu un 9 ans.
Iné, dans le pasouk Crète, regardez le pasouk Crète, si Dieu il l'a promis de le garder, ok, vous êtes avec moi, si Dieu il lui a promis de le garder, regardez ce qu'il dit dans le pasouk Crète, dans le chapitre 32, Lamed Bet, pasouk Crète, Vaïra Yaakov, Meod, Vaïtserlo. Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur? Dieu il lui a promis que tout va bien. C'est vrai que ses envoyés, ils viennent de lui dire, et ça, il arrive avec 400 mecs qui veulent te tuer. Mais Dieu lui a promis qu'il le garderait. Alors pourquoi il a peur? Et c'est la même raison pour laquelle Rava a peur. Il dit parce que j'ai peur que la faute me fasse défaut. Et c'est quoi la faute? Ben, Yaakov nous a dit, va echar adata. J'ai tardé. Au moment où le peuple juif doit être en exil, est-ce que c'est de sa faute s'il est en exil? Bah, quelque part oui, on a fait des erreurs, certes, mais qui a décidé qu'on sera en exil? Dieu. Donc, on est protégé quand on est en exil, parce que Dieu, il est quand même un petit peu responsable de ça. Et c'est pour ça que Dieu nous fait la promesse qu'il ne nous arrivera rien en exil. Aval, au moment où l'exil prend fin, et toi tu décides d'y rester, ça s'appelle tarder.
Oui, mais il y aura toujours.
Il y aura toujours, hein?
Tout ce qui
est
empêché, sinon
tout le monde. Tu as raison. Mais ça s'appelle comment? Quand tu peux rentrer mais que tu décides de pas rentrer. C'est-à-dire si tu viens en Mahonora à 8h50, tu es en avance. Ça sera fermé. C'est Chaval. Tu vas rentrer, le mec il va te dire non, tu rentres pas. C'est-à-dire si tu décides de revenir en Israël avant le moment, bah, les nations vont te dire nine. Si tu viens à 9h, c'est ouvert, c'est bon, tout va bien. On t'accueille à bras ouverts. Mais si tu viens à 9h30, tu tardes déjà. Et donc, hein, la porte est toujours, bien sûr qu'elle est toujours ouverte. Mais tu vas te prendre une remontrance dans la figure. Pas ici parce que nous on est sympas, tu vois. Mais moi je me rappelle qu'il y a une fois, j'étais au cours du Rav Zuckerman, je ne sais pas. Je suis arrivé avec 3 minutes de retard. On a dit à Talon Ichnas. Non seulement à Talon Ichnas, mais. Non seulement le Rav Zuckerman, il nous a dit tu rentres pas, mais il m'a dit tu veux plus revenir au cours. Terminé. Non?
Non, ça se fait pas ça.
Bah, comment ça se fait? D'abord, c'est son cours, il fait ce qu'il veut.
Ah non, je suis désolé, c'est un cours de Torah, et ça veut dire il en va chaque
année. Il a pas dit tu peux plus jamais étudier la Torah. Il dit, chez moi, tu étudies plus. Et il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que la Torah, c'est sérieux. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est sérieux. Si tu penses que tu peux être en retard, c'est bon. ça va moi. J'ai pas envie d'enseigner à des gens qui pensent qu'ils peuvent être en retard. C'est pas le problème. Je rentre pas dans le débat, est-ce qu'il a raison ou il a pas raison. Dans tous ses cours, je peux t'assurer que les gens ils sont à l'heure.
Mais donc t'as pu amener de...
J'étais plus dans son cours.
Hein?
J'étais plus dans son cours. Dans son cours, j'ai pas été. J'ai été dans des cours à lui, mais pas le même cours. Non, c'est pas une blague, c'est une question d'éducation.
Mais non, c'est
ça s'appelle du chinour, mademoiselle. Ça s'appelle du chinour. Ça s'appelle du chinour. Mais ben reviens plus. Attends, j'ai pas compris que tu viens pour lui.
Non, parce que de base, quand on vient ouais. Et qu'on étudie, ouais. Il te vient, ça va quoi.
Mais j'ai pas compris, attends, excusez-moi. J'ai pas compris. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas pour moi que tu viens en cours. Tu me fais pas une tova si tu viens en cours. Il y a fait. Donc tu me dis, s'il me fait ça, je reviens plus. Bah reviens plus, c'est ton problème. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi ça se fait pas? Attendez, deux secondes, temps mort. Pourquoi ça se fait pas? Parce qu'il a tort de dire que t'as été en retard.
Non,
j'étais en retard, c'est ma faute. Après, c'est ses règles à lui. Et peut-être que c'est des règles que nous, on n'arrive pas à maîtriser. Mais il y a une notion qu'on a peut-être du mal à entendre, qui est une notion de discipline, qui dans certains milieux est très importante.
C'est
encore plus important.
Justement, même le peu de Torah qu'on peut nous enseigner.
Ah, mais il a pas dit que tu pouvais plus étudier la Torah.
Oui, bah là,
il a dit, je veux plus moi.
Ça
braque la personne. Et bah, tu veux que je te dise, toutes les personnes qui ont étudié et qui citent encore le Rav Tuckerman aujourd'hui, c'est des gens qui ont été bradés par le Rav Tuckerman et ils s'en sont pas braqués. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il a aucun intérêt personnel là-dedans. C'est une question d'éducation. Et je peux t'assurer que, je dis pas que jamais, mais j'ai rarement été en cours en retard après. Que ce soit à son cours ou à d'autres cours. Parce que y a un chinour là-dedans. C'est nachon qu'il y a un chinour. Elle m'a la saute, les filles. Si on continue à venir en retard, je suis désolé de vous dire ça, c'est vrai, encore une fois, prenez-le comme vous voulez, les filles. C'est ma mâche, pas pour moi que je dis ça. Un, parce que Annie Kloum, et j'ai aucun problème d'ego, j'ai pas de problème de faire cours à trois personnes. J'ai commencé au Mahon Orah quand dans la promotion, ils étaient cinq. Et quand t'avais deux personnes qui étaient pas là, t'avais la moitié de la classe qui était pas là. Les ébécédaires, et on faisait cours, et y a aucun problème. Donc j'ai pas de problème, c'est pas pour moi que je dis ça, mais maître. D'autant plus que ce matin, ça devait pas être moi. Donc c'est pas une question d'ego. Je vous dis simplement que pour les rabbanim qui viennent et qui essayent d'être à l'heure, ça se fait pas de pas être à l'heure. D'autant plus que 9h, c'est pas une horaire extrêmement tôt. Me la jouez pas à l'envers. D'accord? On est des jeunes. On n'a absolument rien à faire de nos matinées, à part se lever, s'habiller et venir. Je peux vous assurer que le Rav Cherki ou les autres rabbanim qui doivent venir, ils doivent s'occuper d'un milliard de choses avant de pouvoir être là à 9h. Et s'ils arrivent, eux, à être là à 9h, je pense que c'est Khashouv. Et c'est Kavod à Torah, pas Kavod la Rav. Le Rav, il s'en fout. Mais Maître, il s'en fout. Ah ben, c'est Kavod la Torah d'être là avant lui. Mais Maître, je sais pas comment vous le ressentez. Mais je pense que c'est Khashouv quoi. Et au Bémet, on a un problème dans notre génération qu'on essaie d'enlever tous ces trucs-là. Moi, ma femme me racontait, elle enseigne dans une école à Keshet. Elle enseigne pas la Torah, elle enseigne l'anglais. Mais je pense que ce soit la Torah ou pas la Torah, tu dois avoir un respect par rapport au professeur. C'est comme ça que moi j'ai été éduqué. Moi, je me rappelle que quand je rentrais à l'école, dès que le prof y rentre, on se lève. Et j'ai jamais pris ça comme une hashpala, jamais pris ça comme quelque chose on me fait me sentir moins que rien. Le prof y rentre, il va me donner un savoir. C'est la moindre des choses que je me lève devant lui. Il a le savoir, moi je ne l'ai pas. C'est un manque, c'est une marque de respect. Et je vois pas en quoi c'est un problème. Ma femme, elle a été éduquée comme ça aussi en Angleterre. À l'école, là où elle est, le menel, il lui a dit, viens dans mon bureau, machin. Elle a dit, il paraît que tu demandes à tes élèves de se lever quand tu rentres dans la classe. Elle dit oui. Elle dit, bah tu arrêtes. Chez nous, ça se fait pas. Je dis, ça se fait pas. J'ai dit au menel, j'ai dit, mais dis-moi, tu les as pris pour des bisounours ou quoi? Si tu leur apprends pas un minimum de respect, non, ça doit venir autrement. J'ai dit, mais ça viendra autrement aussi. Mais il y a aussi une question qui est importante. Donc je pense que c'est pas une question de Torah ou pas Torah, a fortiori avec la Torah. Je sais pas comment vous le voyez. Je...
Ils ont humilié une personne, ça sert à rien à
toi. Pourquoi humilier?
Si par exemple une personne elle rentre, mais tu rentres pas, elle est.
Il y a manière et manière de le faire, évidemment. C'est pas je te mets la fiche, va te mettre au coin. Il y a manière et manière de faire, on est d'accord, Fader. Je dis pas, tu as raison, faut pas humilier la personne. Peut-être que, en l'occurrence, il va rien te dire, à la fin du cours, il te dira bon voilà, je préfère que deux. Fader, Mbaya, après chacun un truc. Un jour, je vais te dire, j'étais en cours du Rav Cherki et j'ai posé une question. Erreur fatale. J'ai posé une question qui, là, cette année, hein, qui aux yeux du Rav était certainement une mauvaise question. Et il m'a dit, Anilo Onelecha. Je te réponds pas. Parce que tu devrais avoir honte. Ça fait 12 ans que tu étudies chez moi. Tu dois savoir un truc comme ça.
C'était quoi la question?
Laisse tomber, c'est pas le problème. Elle dit, tu dois savoir un truc comme ça.
C'est un truc,
Non, c'est pas le problème. Toi, tu sais pas. Mais ce que moi je devais le savoir. Agave, il avait raison. Je me suis creusé un petit peu la tête après le cours et j'ai trouvé la réponse. C'était juste de la fainéantise intellectuelle. Maintenant, après, comme les cours du Rav Shaki, c'est pas seulement que c'est filmé, comme nous. C'est également retransmis en direct sur internet et tu peux poser des questions en direct. Et il y a quelqu'un qui a posé une question, enfin qui a dit quelque chose dans l'écran, il a dit « Je trouve que vous avez été trop dur avec l'élève. » Et le Rav, il a dit, tu vois, c'est ça tout le problème quand on étudie la Torah derrière l'écran. Parce que c'est quoi le problème? Toi, tu ne vois que moi. La caméra, elle est fixée sur moi. Et donc, tu m'as vu lui dire ça, et tu as vu les gros yeux que je lui ai fait. Mais si tu avais été dans la classe, tu aurais vu que quand je lui ai dit ça, il avait une banane comme ça, que tous les autres gens, ils ont rigolé, et que si tu nous connaissais, tu étais dans l'environnement et dans l'ambiance, et que tu connaissais notre relation, tu sais qu'il adore quand je lui fais ça. Ça fait 12 ans que je lui fais des remarques comme ça, et regarde, il est toujours là. Donc, il y a un rapport humain qui ne peut pas être transmis par la caméra, des zénachon. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a manière et manière de faire les choses, mais le message reste vrai. Okay? En tout cas, Yaakov a peur parce qu'il a tardé. Il a tardé, il est resté en exil un peu trop. Mais Yaakov, c'est pas un mec qui est resté en exil pour rien. Pourquoi il est resté en exil, Yaakov? Alors qu'il aurait pu repartir. Qu'est-ce qu'on avait la semaine dernière? Non. Quand il était pour sa femme, c'était le temps où il devait être en exil. Mais quand Yosef naît, il dit je pars, finalement il reste encore 6 ans pour faire du business.
C'est pour voir son père, non?
C'est
pour voir Esav.
Non, il aurait pu rentrer tout de suite. Il a fait du business. Et à ce moment-là, ça, il se dit peut-être que ça, c'était rester trop. Et quand tu restes trop, il y a un danger. Parce que quand tu dois être en exil, Yaakov, il sait que Dieu il le protège. Mais quand il est possiblement en train de sortir d'exil, mais qu'il n'y sort pas, arrive le danger. Juste, je finis ma phrase et je te laisse parler. À chaque fois qu'on a eu, et écoutez bien cette phrase parce qu'elle est dure à dire, elle n'est politiquement pas correcte. À chaque fois qu'on a eu un danger de Shoah, c'était dans ce cas-là. C'est-à-dire, la Shoah que nous on a vécue, elle est terrible. Mais ce que représente la Shoah, c'est déjà produit le danger dans l'histoire. C'est-à-dire, une volonté de détruire le peuple juif, ça s'est déjà passé dans l'histoire. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'éviter la dernière fois, les autres fois on les a évités. C'était quoi les autres fois? Bien, vous rappelez la semaine dernière, quand Yaakov s'en va de chez Lavan, ben il est, la paracha de cette semaine, Yaakov arrive face à Esav, il n'est pas encore rentré en Israël. En chemin entre la sortie de l'exil et le retour à la maison, il y a Esav qui va pratiquement essayer de le tuer. On va voir ce qui va se passer finalement que non. Lorsqu'on sort de l'exil d'Égypte, Moshe nous sort d'exil, on n'est pas encore rentré en Israël. Au milieu, il y a Amalek qui vient nous attaquer. Lorsqu'on sort de l'exil de Babylone avec Zerubbabel, avec la déclaration Cyrus, on n'est pas encore rentré. On a construit le Beth Amidash avec Ezra et Nehemia. Au milieu, il y a Pourim. Avec l'histoire de Haman qui veut tuer tout le monde. Au moment où on sort de l'exil de Rome, la déclaration Balfour, mais on n'a pas encore construit l'État d'Israël, ben au milieu, malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu la Shoah. C'est-à-dire ce temps de Va'echar Adata, de j'ai tardé, Yaakov, il sait que c'est un temps qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer bidiouk à ce moment-là? Eh bien, regardez, c'est la suite du film. Finalement, Yaakov, il sait que donc il y a Esav qui arrive avec 400 mecs pour le tuer. Il prend. Oui, excuse-moi, je voulais te donner la parole.
Je comprends pas, on parle de Rava ou de Yaakov? C'est qui Rava?
J'ai dit, à l'époque du Talmud, il y a trois grands rabbins qui disent moi, je veux pas voir le Mashiach. Parce qu'ils ont chacun peur d'un truc. Rava, on a dit, il a peur de ces douleurs qui peuvent arriver juste avant. Et pour appuyer ses dires, il cite Yaakov, qui a la même peur que lui.
Ah,
ok? Oui?
Mais
Rava,
il n'avait pas cette indication d'aller en Israël.
Ah bon?
Enfin, d'indication de temps.
Bah si, je sais pas, c'est une mitzvah, non?
Même à l'époque, avant que...
Bah on a étudié, on a fait un cours, deux cours sur la mitzvah d'habiter en Israël, n'est-ce pas? Donc il y a une mitzvah. Cette mitzvah, quand je peux la faire, je dois la faire. Quand je peux pas, je peux pas. Mais si je peux la faire, je dois la faire. Or, Rava, il te dit, l'époque du Mashiach, ce sera certainement une époque où on pourra tous le faire. Mais, il y a des gens qui voudront pas. Pourquoi? Oh bah tu sais, hein, ça peut être du business physique, ça peut être du business spirituel. Ok ? Oui.
Il aura un chiar.
Vas-y, il y a un truc qui dit. C'est pas quand il y aura un chiar. Le processus de la Géoula dépend de ce qu'on appelle Gibbutz Galouyot. Le rassemblement des idées. Agav, ça marche bien. Il y a 7 millions de juifs en Israël. Tu sais qu'il n'y a jamais eu autant de juifs en Israël dans aucune période de l'histoire qu'aujourd'hui. Donc on est bon là en termes de rassemblement des exilés. Ok ? Bessada. Donc finalement Yaakov sait que ça va arriver. Alors après il fait un truc très technique. Il va se préparer en trois étapes à la rencontre avec Esav. Trois étapes qui sont Jlamadou avec des cadeaux, la tfila, et on oublie aussi, je me prépare à faire la guerre. Ça suffit pas de faire des Tehilim. Et finalement, regardez ce qui se passe. Continuez de sauter maintenant. Allez jusqu'au verset Yud Dalet. Vayalen Sham Balaila Ahu. Ok ? Donc il a dormi cette nuit-là. Et il a pris avec lui tout ce qu'il avait. Jusque-là, tout va bien. Il a séparé sa famille en deux camps. Un dirigé par Rachel, un dirigé par Léa, avec la moitié des enfants et la moitié des enfants. Et il a dit pourquoi ? Parce que si jamais ça vient et il me frappe, au moins, s'il y a un des camps qui est frappé, l'autre camp, il survivra. Ça va, technique. Et là, regardez ce qui se passe. Maintenant, sautez au verset Kaf Gimel. Vayakom balaila ahu. Il s'est levé cette nuit-là. Vayikach et chte nasha, et chte shifrota, et achad asar yeladav. Il a pris ses femmes, ses fils, et il a traversé le Yabok. Le Yabok, c'est quoi ? C'est un fleuve qui permet de rentrer en Israël. Donc quelque part, Yaakov rentre à ce moment-là en Israël. Il leur a fait passer le fleuve. Et il a fait passer tout le monde là-bas. Et là, regardez ce qui se passe. Une fois qu'il a fait passer tout le monde de l'autre côté du fleuve, Vayivater Yaakov Levado. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'est retrouvé tout seul, tu dis ? Alors, pas vraiment. Levad, dans la Torah, ça ne veut pas dire tout seul. Pour dire tout seul, dans la Torah, on dit Boded. Comme on dit dans la Megillah de Echa, Echa Yashva Badad. Levad, vous faites du jardinage un peu ? Vous savez ce qu'on fait quand on a un arbuste comme ça qui tient pas bien et qu'on veut qu'il puisse pousser droit, on met un tuteur. Comment on dit un tuteur en hébreu ? On appelle ça etz lavoud. C'est-à-dire c'est un bout de bois qui n'est là que pour être avec l'autre. Donc levad en hébreu, ça veut dire tout seul avec quelqu'un. Tout seul avec quelqu'un. Bah tu sais, l'ange qui va arriver. D'accord ? Vaivater, il est tout seul avec quelqu'un. En gros, ils sont deux. Tout seul avec quelqu'un, ça fait deux.
Pourquoi Levado, ça veut dire tout seul ?
Ah, c'est ce que ça veut dire, Levad. Levad, ça veut dire moi et encore quelqu'un à côté de moi. C'est pour ça que je te dis. Levad, ça veut pas dire tout seul. Dans la Torah, tout seul, on dit Boded. Levad, ça veut dire tout seul avec quelqu'un, donc ça veut dire à deux. Ok ? Pas de problème ? Vaïvate Yaakov Levado, vaïe avec Ish Imo. Bah oui, s'il était tout seul, il aurait pas pu se battre. Il est tout seul avec quelqu'un, et ce quelqu'un en l'occurrence, okay, il va se battre avec lui. Alors tu dis Hachem, l'ange, bah, l'ange c'est un peu Hachem, c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est vrai ça, c'est quoi la définition de l'ange ? Vous pouvez me donner une définition d'un ange s'il vous plaît ?
Définition. Définition
de Hachem lui dit. Définition de l'ange, il fait une mission, c'est ce qu'il fait. Tu as une définition d'un ange, Mazé Malach.
Envoyé de Dieu.
Envoyé de Dieu, ça peut être moi. Alors, un envoyé de Dieu, pas sous forme humaine. Et s'il prend forme humaine ?
Spirituel.
Spirituel, et s'il prend forme humaine ?
Ah, qui connaît son but. Il n'a pas dit Sarah.
Alors, je vais vous donner moi une définition. Je dis pas qu'elles sont fausses, ce que vous avez dit. Je voudrais vous donner la mienne. Malar, c'est Retson Hashem. Un ange, c'est une expression de la volonté du Créateur. Maintenant, il y a différentes sortes d'anges parce qu'il y a différentes volontés de Dieu. Par exemple, la volonté du Créateur de guérir, comment elle s'appelle ? Raphaël. Ok, c'est la volonté de Dieu de guérir. La volonté de Dieu d'être puissant s'appelle Gavriel. Gibor El. Ok ? Je sais pas moi, la volonté de Dieu d'allumer la lumière, c'est Oriel. D'amener la lumière dans le monde. Ok ? Par exemple, la volonté de Dieu de créer des ordinateurs, c'est Intel. Ça marche aussi. Ah, ça marche ! Non, ça marche pas ? Top, mais ça veut dire. La volonté de Dieu. Donc là, ce qui est en train de se passer, Yaakov va se battre avec une expression de la volonté du Créateur. C'est quoi cette volonté-là ? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Zohar ? C'est qui cet ange-là ? C'est qui en l'occurrence ? L'ange des Saves, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là, Yaakov fait face à la volonté de Dieu qu'il y ait Esav dans le monde. C'est pas mal.
Mais si la volonté de Dieu est volontaire, comment est-ce qu'il fait ?
Il peut simplement décider que d'accord, tu as une place, mais c'est moi qui est le patron.
Mais il avait décidé que ça serait le patron.
Que ?
Et là, ça serait le patron.
Ça l'a été de facto pendant 20 ans, parce que Yaakov s'est barré.
Ça veut dire que c'est décidé par Dieu ?
Ben, barrière. C'est pour ça qu'il doit se battre avec Yaakov. Yaakov doit montrer que maintenant je reprends ma place. Ok ? Et donc, Vayavater, Yaakov, Levado, Vayavek, Ishimo, Adalot, Ashachar. Combien de temps ils se sont battus ? Ah, vous croyez que c'est simplement un verset qui vient de donner une indication temporelle comme ça ? Allez, quand ils se sont battus, c'était toute la nuit, d'accord ? Or, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, la nuit, dans le langage de la Torah, ça représente quoi ? L'exil. C'est quand le début de la Géoula, d'après le Talmud, comment ça s'appelle ? Alot HaShachar. Comment ça se dit en français, Alot HaShachar ?
Le lever du soleil.
Ah non. Comment on dit lever du soleil ? Ozricha, nachon, ou alors dans le langage de la Torah, Hanet Sachama. Ok, des Français qui disent, moi je vais prier honnête. Oui. Ah, les gens qui disent ça, bon, c'est les gens qui n'ont jamais appris à parler hébreu. C'est les mêmes gens qui disent, c'est pas bien de faire du shonara. Oui, parce qu'ils pensent que là c'est l'article défini. Il y a c'est la shonara. Donc, non, c'est pas bien de faire du shonara. Va leur expliquer qu'en fait c'est la shonara. Ben, c'est pareil pour net. Et tu as pris honnête ? Ouais, je veux honnête, moi. Net, en hébreu, ça veut dire un faucon. D'accord ? Hanet, sachama, ça veut dire le lever du soleil. Oh, hanet. Si tu veux parler en français, en frambreux, genre parler et en français et en hébreu, tu dois dire, je vais faire la tefila. Oh, hanet, sachama. Non. Alotashacha, c'est l'aurore. L'aube, c'est le moment où le soleil se lève. L'aurore, c'est quoi ?
C'est le temps entre les...
C'est le moment où la lumière commence à arriver. Il n'y a pas encore le soleil. Un jour, Bezrat Hashem, peut-être, vous viendrez à Masada au lever du soleil. Et vous verrez bien qu'il y a de la lumière qui commence bien avant que le soleil se lève. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle Alot HaShachar par rapport au Hanet. Alot HaShachar, c'est plus dur de savoir que la Géoula a commencé. Quand le soleil se lève, c'est pas compliqué, tu vois le soleil. C'est évident. Quand Ben Gurion crée l'État d'Israël, c'est Baruch, c'est la Géoula, ça y est. Mais quand c'est que les étapes de création, et que tu vois rien concrètement, c'est plus dur de le savoir. Là, Yaakov, il sait très bien. Adalot HaShachar. Il n'y a pas encore le soleil. Il y a juste la lumière qui commence à revenir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vayav kilo yacholo. L'ange, il a vu qu'il ne pouvait pas battre Yaakov. Vayiga bekav yerecho. Il l'a frappé, où ça ?
Dans sa hanche.
Kaf yerecho, c'est la hanche. Maintenant dites-moi, ça se passe pour de vrai ce combat ?
Non.
Ah et tout ça, c'est de la prophétie, c'est dans c'est de la nouveauté. Donc comment ça se fait que le lendemain, Bémet, il boite ?
Ouais,
on sait que ça marche le rêve psychosomatique. Il y a très souvent des gens qui font un rêve qui est tellement, tellement fort chez eux. Ça t'est jamais arrivé de te réveiller en plein cauchemar et d'être en pleine transpiration
et tout ça ? X années, jusqu'à la fin de sa vie, il était comme ça.
Ouais.
Non, pas jusqu'à la fin de sa vie.
Ah ouais ?
Non, dans la paracha, ça y est, ça va aller mieux. Tu vas voir. Ok ? Deux secondes. Bekitsu, Veiga be kaf yerecho, va te kaf yerech Yaakov be afko imo.
Mais aussi, il écrit que c'était une
quoi ? Il se bat avec un ange. Ah, tu veux savoir où c'est marqué ? La Zohar. Tu vois, des fois je cite la Zohar, c'est bizarre. Vayomer Shalcheni ki ala Shachar. L'ange lui dit, laisse-moi ki ala Shachar. Ça y est, la Géoula a commencé, laisse-moi partir. Vayomer Loj Tachacha ki im berachtani. J'ai bien compris que t'étais la volonté de Dieu. Je veux que tu me donnes une bracha. Alors il dit bon, ok, ma shimcha, vayomer Yaakov. Vayomer lo Yaakov, ye amer od shimcha, ki im Israël. Ki sarita im Elohim ve im anashim va tochal. Attends, juste il lui dit, tu vas t'appeler, un jour tu t'appelleras Israël. Il ne le nomme pas encore Israël. Il lui dit, viendra un moment où tu vas t'appeler Israël. Ça arrivera dans la paracha un peu plus tard. Pourquoi Israël? C'est quoi le nom Israël? Yachar El Sarita im Elohim v'anashim. C'est-à-dire que tu es. On avait dit que en potentiel, mais dans les faits, ça sera Yahweh. Ok. Oui, tu voulais dire. Attends, d'abord toi, tu voulais dire.
Non mais un ange, il est pas plus fort physiquement qu'un homme.
Il est pas?
Plus fort physiquement qu'un homme.
C'est pas vraiment une question physique. C'est une question, est-ce qu'un ange il est supérieur à un homme? Ça dépend si tu demandes au Rambam ou au Ramban. Pour le Rambam, l'ange c'est le top. Pourquoi? Parce que le Rambam il ne voit d'important que l'élévation intellectuelle. Or l'ange il a plus de chorma que toi. Mais pour le Ramban, l'homme il est bien plus fort que l'ange. Lama, il a le libre arbitre. Ok?
Pourquoi est-ce que l'ange il laisse partir parce qu'il y a la Géoula qui arrive?
Ah, parce que donc à partir du moment où la Géoula elle arrive, ma place elle est plus ici.
Pourquoi?
Parce que c'est à toi maintenant.
Mais sa place à Yaakov, elle était déjà avant que la Géoula.
Non, la place dans ce monde, de gérer ce monde pendant que Yaakov est en exil, c'est l'ange de Esav qui gère le monde.
Ah, j'ai
compris. Quand Yaakov revient, il doit partir.
Les anges, ils ont
une
influence sur nous.
Les anges, quand ils doivent en avoir. Ils font ce que Dieu leur a demandé.
Il avait l'influence sur lui.
Non, justement, tout le combat de Yaakov, c'est de comprendre que c'est maintenant à lui de répandre l'influence. Ok ? La prophétie, ouais. T'as vu ? Maintenant, ok, il le laisse partir. Ben c'est là. Vaïssa Yaakov enav, vaïar veine esav, ba veimor, ba maotish. Et donc là, il y a Esav, juste après son combat avec l'ange, il voit Esav arriver. Et il a 400 mecs avec lui. Il a 400 mecs avec lui, et qu'est-ce qu'il est venu faire Esav?
La guerre.
Il est venu le tuer, pachoute. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il le voit. והוא עבר לפניהם והשתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו אל אחיו והרוץ עשיו לקחתו ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהו ויפקהו. Finalement Esav, quand il a vu Yaakov, il est tombé dans les bras, il l'a embrassé, il a pleuré. Comment ça se fait que d'un coup il a changé? Chazal, Rashi nous dit, tout simplement parce qu'il l'a vu boiter. Quand il l'a vu arriver, il boitait, il venait de se remettre de son combat. Et donc, Rashi nous dit comme ça, regardez. Vechabkeu, non. Vechabkeu. Le pasouk d'Alet, mais regardez dans Rashi. Il y a marqué dans Rashi, Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Ok, vous l'avez? Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Alakha i beyadua she Esav sonne le Yaakov. De manière générale, Esav il n'aime pas Yaakov. Aval, nichmeru rachamav beota sha'a unshako bechol libo. Il dit au moment où il l'a vu boiter, behemet, il a eu pitié de lui et il l'a embrassé de bon cœur. Les amis, il s'est passé exactement la même chose en 1947. Behemet, les nations en général, ils sont pas fans de nous. Mais en 1947, après la Shoah, Behemet, ils ont eu pitié et ils ont fait le vote des Nations Unies. Si ce vote est passé aujourd'hui, oui, je suis assuré que ça passerait pas.
Ils ont fait du mal, eux, ils n'ont pas été pour. Hein.
Quoi?
Les nazis.
Les nazis, ils n'avaient plus leur mot à dire. En 1947, l'Allemagne, c'est plus les nazis. Et l'Allemagne, elle a voté pour, en l'occurrence. Ok? Ouais, c'est un peu compliqué. Et là finalement, Esav lui dit, ok, ben Seder, c'est qui tous ces gens-là? Yaakov lui dit, c'est mes enfants, patata, patata. Et là, Esav lui dit, viens avec moi. Allez, viens. On va ensemble aller à Seir. Et Yaakov lui dit, non. Je viens pas encore avec toi. C'est pas encore le moment que toi et moi on s'unisse. Viendra un temps, Bezrat Hashem, la Tid Lavo, où on s'unira. C'est ce qu'on dit dans la Tfila. Dit, Mohan, qu'il a donné à Melucha ou Moshe le Bagoïm, Valou Moshim, Beal Tzion, Nishpot et Aresav. Ça viendra un temps où Al Tzion et Aresav, ça sera ensemble. Mais pas encore. Pour l'instant, toi tu rentres là-bas et moi je vais chez moi. Et là, c'est la fila de tous les jours.
C'est quand c'est la fin?
Juste avant la session Moshe. Et à ce moment-là. Non, juste après. J'ai eu un bug là. Et juste à ce moment-là, Yaakov, ça y est, il peut rentrer en Israël. Wouhou! Il rentre en Israël, il est content. Seulement, où est-ce qu'il doit rentrer maintenant? Où est-ce qu'il doit aller?
Jérusalem.
Non, pas à Jérusalem. Il a promis qu'il devait revenir où? Chez papa. Chez papa. Bah, il est parti de chez papa. Il doit rentrer chez papa.
Il est
pas mort encore, Yitzhak. Ah non, il a attendu 20 ans, mais il est pas mort. Maintenant, où est-ce qu'ils habitent, Yitzhak et Rivka? Ils habitent là.
C'est quoi?
Hébron.
Ah bon?
Ils habitent à Hébron.
Ouais.
Ok? Ils habitent là.
Ouais.
Des fois, ils se baladent à Be'er Sheva. Mais sinon, ils habitent à Hébron. Yaakov, nous, on est là, à Jérusalem.
Ah, c'est à côté?
C'est à 60 km. Maintenant, on est à Hébron, il doit aller à Hébron. Maintenant, où il est à ce moment-là? On a dit qu'il a passé Ma'avar Yabok. Il a traversé le Jourdain, mais Ma'avar Yabok, c'est-à-dire à peu près là.
Oh.
Ok?
Mais il est à pied.
Il est à pied, ça y est, c'est pas grave ça.
Bah, pour arriver jusqu'à Hébron, il
va marcher deux jours. C'est pas la folie.
Deux jours.
Ouais, c'est pas la folie. Maintenant, si j'arrive par là, et je dois aller à Hébron, je dois aller où?
En bas.
Donc plein sud.
Bah, oui.
On est d'accord?
Lui,
il va plein nord. Où est-ce qu'il va? Regardez. Il était parti. Prenez maintenant. Ephoani. Ok. Verset Yutret. On est au chapitre Lamed Gimel, verset Yutret. Regardez où est-ce qu'il va. Vayavo Yaakov Shalem. Ir Shrem. Il est arrivé à Shrem. C'est où Shrem? Il est là. Il est là. Il doit aller là. Et lui, il va là. Donc, c'est pas qu'il s'est planté dans le chemin. C'est clair qu'il doit aller au sud et il va au nord. Ça veut dire qu'il y va pour une raison. Et là, les amis, on rentre pour la 10 dernières minutes pour une histoire beaucoup plus folle. Parce que ça y est, l'exil est terminé maintenant. Il est rentré. D'ailleurs, l'exil est terminé. Il s'est remis de sa blessure avec l'ange, d'où je sais. Et à ce qui a marqué, Vayavo Yaakov, Shalem. Mazé Shalem. Mazé entier. Regarde ce que dit Rashi. Shalem Begoufo, Shenitrape Mitzalaato. C'est-à-dire qu'il a été. Ça y est, il s'est remis. Ok? Et il arrive à Shrem. Maintenant va s'ouvrir une autre page de l'histoire juive. Si jusqu'à présent on était en exil, eh bien maintenant la page Israël s'ouvre. Et pourquoi il va à Shalem? Pourquoi il va à Shrem? Ben on a dit, c'est une volonté, c'est pas qu'il s'est planté dans le chemin. Il va plein nord alors qu'il devrait aller plein sud, c'est pas un détour. Il va là-bas parce qu'il va chercher quelque chose. Vous vous rappelez qu'on a dit la semaine dernière, Yaakov il a un problème, c'est qu'il a 12 fils, enfin pour l'instant il en a 11. Et il a aussi quoi?
Une fille.
Une fille.
Il va chercher un
faut la marier. Et donc il va chercher un mari pour Dina.
Pourquoi il va là-bas?
Oh. Là tu poses une bonne question. Pourquoi il va là-bas? À qui il aurait dû la donner? Ce qu'on n'a pas dit il y a deux secondes, c'est que quand Esav il arrive,
il
la planque dans une boîte.
C'est une
pas cool.
Chez eux.
Pas cool. C'est peut-être la même boîte d'ailleurs. Parce qu'il s'est dit, je veux pas la donner à Esav. Bon, ouais, on peut peut-être comprendre,
ça.
Hein
d'ailleurs, on a dit lui pour ça, non?
Non, Khazan dit, c'est pas bien ce que t'as fait. T'aurais dû.
Oui, mais en tout cas, c'est pour ça que Gina, elle s'est
battue. Non, non, ça serait pas arrivé si tu l'avais donné à Esav. Mais non, lui, il voulait pas donner à Esav. Esav avait à ce moment-là 98 ans, Dina en avait 7. Et ça, à ce moment-là, avait 98 ans.
Esav, non?
Non, Léa.
Léa, oui.
Bon, maintenant, elle est mariée avec Yaakov, voilà ça.
Oui, oui.
Okay? Donc si déjà, donne-lui Dina. Non, il lui a pas donné. Et donc là maintenant il va chercher un autre mari à Dina. Si c'est pas Esav, alors ça sera qui? Eh bien ce sera Shrem. Parce que c'est qui les gens de Shrem? Vous vous rappelez peut-être pas, hein, mais il y a longtemps, on avait étudié la paracha de Lech Lecha. On avait dit que finalement Avraham avait désobéi à Dieu et il avait pris avec lui tous ses potes. Et où est-ce qu'ils avaient été? Ils avaient été à Shrem, construire la ville de Shrem. Et après, ils les avaient laissés là-bas. Ça veut dire que les habitants de Shrem, ce sont les premiers élèves d'Abraham. Les derniers descendants, si tu veux, de l'idéologie d'Abraham, sont à Shrem. Et c'est pour ça qu'il va là-bas. Et là-bas, il va tomber sur le roi de la ville. Et là, Qu'est-ce qu'il lui fait ? Eh bien, d'après Chazal, la première chose qu'il fait quand il arrive à Shrem, il leur apprend trois choses. Intéressant. Yaakov, il apprend à Shrem, Ben Hamor, et à Hamor, à Vishrem, à la ville, il leur apprend trois choses. Il leur dit, il faut mettre en place une monnaie. Deuxièmement, il faut que vous fassiez des bains publics. Et troisièmement, il faut que vous créiez des marchés. Alors pourquoi il lui dit ça ? Eh bien, ce sont les trois étapes par lesquelles, dans la halakha, on se marie. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut trois choses pour qu'une mariée, elle soit véritablement mariée. D'abord, il faut la tabat,
oui.
La bague,
oui.
Donc l'argent.
Okay.
Ok, tu dis sous la coupa, areat mekudeshetli betabaatzo. Ok ? Le deuxième étape, c'est bien gentil d'avoir la tabat, mais d'abord, il faut que la femme, elle ait été d'abord au mikveh. Et enfin, qu'est-ce qu'on lit sous la choupa ? La ktouba, qui n'a de valeur que parce qu'il y a un processus commercial. Donc, le marché. La ktouba, elle n'a de valeur que parce qu'elle a la valeur du chouk. Ok ? La ktouba, c'est une valeur comme marchande. C'est combien je vais payer si jamais... Je défais mon mariage. C'est la somme que je vais donner.
C'est une blague.
Non, c'est pas la blague. C'est une blague. Ça s'appelle un contrat de mariage. Je comprends pas ce que. Quoi ? Ça existe dans toutes les cultures.
Tu mets des millions d'euros dessus.
Tu mets ce que tu veux sur le dessus.
Non, mais il y a pas écrit.
Non, c'est le mec.
Quel mec ?
Le mec avec qui tu vas te marier.
Ah, mon mari,
ok ? Il va marquer combien tu vois à ses yeux.
C'est affreux.
Ouais, mais je vous rassure, de toute façon, plus personne ne donne la ktouba aujourd'hui. Dans aucun cas de figure, la ktouba, elle est réalisée. Vous en faites pas.
C'est pour faire patienter le public.
C'est pour faire la séparation. Non, pratiquement c'est pour faire la séparation entre les fiançailles et le mariage. Les fiançailles, c'est la première bracha qu'on a lu avant, la ktouba. Le mariage, c'est les siva brachot après. Entre les deux, on lit la ktouba. Mais concrètement, ça marche plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si il y a un arrangement à l'amiable entre les gens qui veulent divorcer. C'est-à-dire qu'en général, il me va terrer à la ktouba. Elle accepte de ne pas reprendre la ktouba. Et si jamais elle veut se battre pour faire en kikiner l'autre, alors. Parce que comment ça marche aujourd'hui ? Rien à voir. Non, la ktouba, c'est un acte commercial. C'est-à-dire, je me suis marié avec toi et j'ai dit voilà, je m'engage, si jamais on divorce, de te donner 100 000 shekels. Voilà. T'es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça.
Mais c'est pas possible qu'il y ait un shekel.
Non. Il y a une somme minimale. Mais tu mets. Il y a plein de gens qui mettent des milliards, des milliards, des milliards. En général, on met une somme. Guionite, quoi, possible. Maintenant, tu dis, voilà, je donne 100 000 shekels si jamais on doit divorcer. On arrive le jour où, chas v'shalom, les gens ils veulent divorcer. Alors, comment ça marche ? Le mec, il dit, je veux divorcer. On se dit, je suis prêt à te donner le get, à la condition que toi, tu mets sur mes vatérettes à la ktouba. C'est-à-dire que toi, tu dis, je veux pas prendre ma ktouba. Donc, comme ça, le mec, il est bon. Ou alors, la fille, elle dit, moi, je veux divorcer, mais j'accepte le get à la seule condition qu'en fait, tu me donnes plus que la ktouba.
Ah ouais, d'accord.
Et après, c'est ce qu'on appelle le bet mishpat.
Mais attendez, on la garde quand même, on la décrit pas.
Ah, tu fais ce que tu veux avec le papier.
Non, parce que tout le temps, après, dans les papiers et tout, on la ktouba.
Oui, d'accord, après.
Ah ouais,
pour l'acte de judaïté, machin, non. Mais bon, t'en fais pas, la ktouba, elle est à la rabbanou de toute façon.
Ah ouais.
Si toi, t'as plus ton. Il y a le rabbin, il signe deux papiers sous la ruba. Un que tu vas garder, que tu vas donner à ta mère, et un que tu donnes, qui rentre dans les registres de rabbanou, qui est mis sur ordinateur.
Ah, machin.
Toi, tu t'es marié, si tu es en Israël, il n'y a pas de problème.
Enfin, si
en Israël, il n'y a pas de problème. Non, parce que c'est organisé, il y a la rabbanout, machin. Quand tu vas te marier en Ukraine du Nord, je ne sais pas à quel point c'est organisé, quoi. Ok ? Mais qui sont ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, les filles, c'est parti. Vatetse Dina Bat Yaakov, chapitre Lamed Dalet. Vatetse Dina Bat Yaakov, Batlea, Slicha, j'ai dit n'importe quoi. Vatetse Dina bat Léa, justement bat Léa et non pas bat Yaakov, de la même façon que Léa était sortie à la rencontre de Yaakov pour lui dire « J'ai échangé mon tour de tente avec Rachel, tu dors avec moi ce soir. » C'était l'histoire des Doudaïm quand ils avaient échangé. Donc pareil, Vatetse Dina bat Léa. Rachid nous dit, elle ressemble à sa mère. Iyotset. C'est une meuf qui sort à la rencontre des autres. Et elle est sortie, Lirod Bivnot Haaretz. Elle a trouvé des copines. Sympa. Et là, Vayar ota Shrem ben Hamor, Achivi, Nessi Aaretz, Vayikach ota, Vayishkav ota, Vayaner. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a violé. Bien ou pas bien?
Pas bien,
d'accord. Comment on gère un cas comme ça? Ok, elle s'est fait violer. On fait quoi maintenant? Dina, elle est sortie à Shrem, ouais. Voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Là-bas, le prince de la ville, Shrem, il l'a vu, il l'a kiffé, il l'a violé.
Ah, ok.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Dina,
la fille de Jacob. On fait quoi maintenant? Elle se marie avec lui. Donc toi, tu dis.
Elle doit se marier.
Toi, tu dis, une meuf qui se fait violer, elle doit se marier avec son violeur. Vous avez raison. D'après la halakha, chez les juifs, entre nous, c'est comme ça que ça marche. Ça t'a énervé parce que, évidemment. Non! Maintenant, elle a le droit quand même de refuser. Seulement, on avait dit qu'à l'époque, elle ne refusera pas. Elle ne refusera pas parce qu'à l'époque, malheureusement, une fille qui était plus vierge, elle ne valait plus rien. Par au prochain, aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc, elle refusera aujourd'hui. Voilà. Quoi qu'il en soit, finalement, comment Yaakov va réagir? Sa fille, oh, sa fille vient d'être violée. Au cas où vous ne vous rappellerez pas.
Il la donne.
Comment on fait? Eh bien, Yaakov, il va essayer de faire le même truc. Qu'est-ce qui se passe? Vatidbak nafsho bedina bat Yaakov, vayehav et aneara, vayedaber al lev aneara. Finalement, il l'a kiffé. Il dit, je veux vraiment me marier avec elle. Vayon ashrem el chamor avil et mor, kachli et ayalda azot leisha. Je veux me marier avec elle. Et là, Yaakov, vayakov shama ki timme et dina bito. Yaakov, il a appris que on a rendu impur sa fille. C'est-à-dire que pour l'instant, les frères de Dina, ils ne sont pas au courant. Ils étaient en train de faire pêtre les troupeaux. Et Yaakov, il a attendu qu'ils reviennent. De là, de ce verset, on comprend qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Qui est en train de prendre les rênes de la famille?
Les frères.
Les fils. On va voir ce qui se passe. Finalement, le papa, il va parler avec le papa. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם והתייצבו האנשים ויחר להם מאוד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. Mes amis, qu'est-ce qu'il a entendu Yaakov? ויעקב שמע, regardez le verset hey. ויעקב שמע quoi? כי תימא את דינה ביתו. C'est-à-dire que quel est le statut de Bin de Dina? La fille de qui?
Yaakov.
Qu'est-ce que les frères ils disent? Regardez le verset maintenant. Chet. Le verset Zayin, c'est ça. Ubené Yaakov, Baou Minasade, Keshom'am. Quand ils ont entendu ce qui s'est passé, ils sont revenus. Vaïtiasevo à Anashim, Vaïchar Laem, Meod. Ils étaient dégoûtés à mort. Pourquoi? Regardez ce qui a marqué. Kinevala Asa. Vous l'avez ou pas? Beisraël! Nishka avait battu Yaakov. C'est-à-dire que pour Yaakov, c'est un problème personnel. C'est ma fille qui a été violée, bon, bah, on va régler ça entre nous. Mais les fils de Yaakov, ils voient ça d'un autre œil. Pour eux, c'est un problème quoi? National. Ils se voient comme étant déjà devenus, c'est où, Klal Israël. Et donc, en tant que tel, si on porte atteinte à la fille de Yaakov, on a porté atteinte à qui en fait? À la fille du roi. Donc, c'est plus un problème perso, c'est un problème national.
Les fils, ça.
Les fils, ils disent ça. Donc il y a une machloquette entre Yaakov et ses fils. Yaakov ne se voit pas encore comme Am Israël. Ses fils se voient comme Am Israël. Qui a raison?
Les fils.
Ben, concrètement, Yaakov, il en manque un pour être Am Israël. Il manque Binyamin. Il n'est pas encore né. Mais ils sont déjà en Eretz Israël, donc ils commencent déjà à comporter comme ça. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben alors là c'est parti, Shimon et Lévi ils sont chauds. Shimon et Lévi ils disent, oh, vous savez quoi, voulez-vous marier avec nous? Pas de problème. Fausse Brit Milé. Ah, et Malasot, c'est comme ça. C'est comme ça chez nous. Donc les mecs ils se disent, ok ça vaut le coup. Et là, vous connaissez l'histoire, tout le monde se Brit Milé. Et oui. Le troisième jour, le moment où ça fait mal, eh bien, Shimon et Lévi viennent et ils massacrent tout le monde. Cool ou pas cool?
Pas cool.
Pourquoi pas cool?
Ils les ont trahis.
Ils les ont trahis. Ils ne leur ont pas dit qu'ils n'avaient pas les tués. Ils ont fait un stratagème. Maintenant ça se fait pas, tu dis. Ouais, mais ça se fait de violer la fille du roi ?
Non, c'est okay, mais il y a une personne qui a violé pas tout le peuple. Hein.
Ah, donc il fallait pas tuer tout le monde.
Bah non.
Seulement le problème, c'est que d'après la halakha, hein, les gens de Shrem, ils doivent respecter quelle loi ? Sheva mitzvot, bené noir. Or, d'après la halakha, les sheva mitzvot bené noir, si tu les respectes pas, tu es passif de mort. Or, c'est quoi la septième mitzvah ? Faire des tribunaux pour juger les autres. Lorsque Shrem ben Hamor viole Dina, qu'auraient dû faire les gens de Shrem? Juger Shrem.
Tout le monde a été au courant.
Mais comment ça se fait?
Parce que c'est le prince. Et puis, d'un autre côté, on a aussi tendance à penser que la ville de Shrem, c'est New York. Venez, on redescend un peu sur Terre. C'est, s'il y avait 150 personnes dans la ville, c'est beaucoup. C'est-à-dire, donc très vite, tout le monde est au courant. C'est des Hamoulot. C'est des tribus qui vivent ensemble. Donc tout le monde sait tout ce qui se passe chez tout le monde. C'est-à-dire, d'autant plus quand c'est le roi qui a fait ça. Et d'autant plus quand tout le monde est au courant, évidemment, puisque le père, le roi de la ville, vient dire à tout le monde, venez, on se marie avec eux, machin, on fait la Brit Mila. Donc, c'est de l'autorité publique maintenant. Donc finalement, ils ne l'ont pas jugé, donc d'après la halakha, ils sont passibles de mort, tous. Shimon et Lévi, ils viennent, ils vont tous les tuer. Est-ce que ça va faire plaisir à Yaakov ?
Ben non.
Regardez ce que dit Yaakov. Non, t'as raison. Il n'aime pas, mais pour une raison. C'est quoi son problème à Yaakov ? Eh bien, regardez. Non, pas moi qui ne l'ont pas demandé. J'ai sauté deux secondes. Sauté au verset. Nous. Il est. Au verset Lamed. Sauté au verset Lamed. Vayomer Yaakov. Lamed. Vayomer Yaakov el Shimon vel Levi. Qu'est-ce qu'il leur dit? Achaltem oti l'avisheni beyoshev haaretz ak bakenindi bakenani ou baperizi v'ani metem ispar v'nesfu alai v'ikuni v'nishmadeti ani ou beti. C'est quoi le problème de Yaakov? Il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait les gars? Mais vous êtes fous! On n'est pas nombreux! Et maintenant tous les peuples ils vont se réunir contre nous, ils vont nous tuer! Donc c'est quoi le problème de Yaakov? C'est un problème de stratégie militaire. Il dit, c'est pas intelligent ce que vous avez fait. C'est pas intelligent, on va se faire tuer avec vos bêtises. Donc puisque le problème de Yaakov, c'est un problème de stratégie militaire, qu'est-ce qu'ils doivent répondre, Shimon et Lévi? Une réponse stratégique. Mais non, t'en fais pas, on est plus fort, on va gagner. Seulement, qu'est-ce qu'ils répondent? Vous vous rappelez du cours qu'on a fait sur Hanouka?
Ouais.
Pourquoi on est sorti en guerre contre Hanouka? C'est quoi qui nous a poussé à sortir en guerre au final? Qu'est-ce qu'on a dit? Quoi? Le droit de cuissage. Le fait qu'on viole toutes les femmes d'Israël. Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas?
D'accord.
Ça lui faisait quelque chose, mais il disait bon, on va gérer ça entre nous. Seulement les frères, regarde ce qu'ils disent. Alors que Yaakov dit, vous avez fait un peu n'importe quoi, parce que maintenant on va se faire tuer. Les frères répondent, regarde, va Yomru. Qu'est-ce qu'ils disent? Achezona ya aset achoteno. Quoi, notre soeur c'est une prostituée? Ça n'a rien à voir avec ce que Yaakov il a dit. D'accord, mais c'est ça la réponse. La réponse de Shimon et Lévi, c'est ça va pas? Mais t'as vu ce qu'ils ont fait à ma soeur? Et ça c'est une bonne réponse. Parce que c'est pas une question de stratégie militaire. On vient de porter atteinte à l'essence même du peuple juif. Donc les mecs ils sont sortis en freestyle. Ils ont raison eux ou Yaakov a raison? Yaakov a dit, c'est pas bien ce que vous avez fait parce que maintenant on risque de se faire tuer. Maintenant, si tu sais pas qui a raison, on n'a qu'à demander à Dieu. Regarde ce qu'il dit Dieu juste après. Regardez ce qu'il dit Dieu juste après. Non, au verset Hey. Alors au verset Hey, deux secondes. Vaï Saou, finalement ils sont partis. Vaï Chitat Elohim Aleharim Asher Svivotem Velor Adfou Achare Bene Yaakov. Finalement, tout le monde a flippé devant les enfants de Yaakov et personne n'est venu leur faire du mal. Donc qui a eu raison?
Les
fils. Béhémet. Béhémet. Parce qu'à ce moment-là, Yaakov est sur le point de devenir véritablement Israël. Parce qu'il a déjà reçu le nom Israël quand il est arrivé à Shrem. J'ai sauté là-dessus, j'ai sauté le verset. Mais lorsqu'il est arrivé à Shrem, Dieu il l'a dit, tu t'appelles maintenant Israël, ça y est. Seulement, Je vais... Parce que les autres aussi sont passibles de mort, baisé qu'ils n'ont rien dit. Ils auraient dû juger Shrem et le mettre à mort. Ils ne l'ont pas fait, tant pis pour vous. Maintenant, juste deux secondes, je vous demande de revenir en arrière. Revenir en arrière, parce que tout le problème a commencé là. Revenir en arrière au chapitre Lamed Dalet, verset Yutret. On l'avait lu, on a dit Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Il est arrivé à Shrem, Asher Be'eretz Kenaan, Bevo Mipadan Aram, au chapitre Lamed Gimel, verset Yutret. Je ne sais pas où c'est, ça dépend des livres. Yaakov est arrivé à Shrem, Vayichan et Pene Aïr. Il s'est installé en face de la ville. Vayikan et Kelkat Asadeh Asher Natasham Aolo, Miyad Benecham Aravi Shrem et Maxita. Il a acheté l'endroit où il s'est posé. Vayatsev sham mizbeach vayikra lo el Elohe Israël. À ce moment-là, Dieu il l'appelle Israël. Oh, maintenant t'en fais pas. Il va le refaire après l'histoire. Après l'histoire, ça va être plus officiel. Donc maintenant revenez au chapitre Lamed Dalet. À la fin de l'histoire, quand Yaakov et Shimon et Lévi ont fait ce qu'ils ont fait. Va Yomer pasuk lamed fait lamed hey pasuk alef va Yomer Elohim el Yaakov kum ale betel veshev sham veaseh sham mizbeach la'el anireh elecha veivarechacha mipnei esav achicha bevarechacha mipnei esav achicha. Il y va à Bethel. Yaakov il arrive à Bethel et lorsqu'il arrive à Bethel, qu'est-ce qu'il lui dit? Iné, reprenez maintenant le verset Vav. Vayavo Yaakov Luza, vous l'avez? Asher Be'eretz Kenan hi Bethel, ou Bechol Ha'am Asher Imo. Il est arrivé à Bethel. Vayiven Sham Mizbeach, Vayikra la Makom El Bethel, qui Sham Niglaou Elav Elohim Bevorcho Mipne Achim. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Vayomer Lo Elohim, verset Yud, suivez avec moi, verset Yud. Vayomer Lo Elohim, Shimcha Yaakov, Lo Yikare Shimcha Od Yaakov. Kim Israël Yeshemecha. Vaikra et Shemo Israël. Maintenant vous savez que des fois il va se réappeler Yaakov. À partir de ce moment-là, Yaakov devient ce qu'il veut. Des fois il est Israël, des fois il est Yaakov. Quand et quand? Israël, c'est quand il représente la dimension nationale du peuple juif dans l'histoire. Yaakov, c'est quand il représente la dimension de l'exil, la dimension faible du peuple juif dans l'histoire. Donc on saura maintenant dans la Torah, dès qu'il y a marqué Israël, c'est qu'on parle de la grandeur du peuple juif. Dès qu'il y a marqué Yaakov, on parle d'une dimension moindre du peuple juif.
Comment c'est qu'on dit béni Israël alors qu'on...
Ça en est bien. L'idéal c'est béni Israël, seulement tant qu'on est béni Israël, qu'on n'est pas encore Israël. Ok. D'ailleurs, comment s'appelle le pays dans lequel tu vis?
Israël.
Non.
Israël.
Non. Eretz Israël, c'est le nom du pays, de nom de géographique. Le nom du pays, c'est quoi? Non, là aujourd'hui, le nom du pays. Non, c'est pas Israël. T'habites pas en Israël. Le nom du pays, c'est pas Israël. Non, je suis désolé. Non plus. Medinat Israël. Non, vous n'avez pas dit Medinat Israël à aucun moment. Quelqu'un a dit Medinat Israël? Ah, excusez-moi.
C'est Doria.
Je vous ai pas entendu. J'ai entendu Eretz, j'ai entendu Israël. Medinat Israël, quand Ben Gurion il déclare l'indépendance, il dit Anachnu machizim bazot al akamat medina yehudit be'eret Israël, hi Medinat Israël. Le nom de l'État, c'est Medinat Israël, ce qui veut dire l'État d'Israël. Maintenant, ça veut dire quoi Israël dans l'État d'Israël? C'est qui Israël? Le peuple juif. Ça, c'est l'État du peuple d'Israël. Ça veut dire que aujourd'hui, on s'appelle bel et bien Israël et non plus béni Israël.
Quand c'est notre alliance, tu peux pas faire mon alliance, on me dit l'Israël, donc tu m'entends d'Israël.
Ah, c'est parce que tu parles le langage de l'argot. Tu parles en français. Malasot. Malasot. Oui. Ouais, bien sûr. Parce que Yaakov, à ce moment-là, il réagit en tant que Yaakov, faible. Donc comme je suis faible, j'ai envie de...
Non, c'est juste par rapport à...
Mais attends, tu as du mal avec la... Attends, je comprends pas. Tu as du mal avec la réaction de Yaakov ou tu as du mal avec la réaction de tous les Yaakov pendant 2000 ans d'exil? Parce que je te rappelle que pendant 2000 ans, dès qu'on te disait sale juif, ou que les Cosaques ils arrivaient, ils brûlaient ton village, ou qu'ils faisaient un pogrom et qu'ils violaient ta fille, comment on réagissait? On baissait la tête et on disait ça va passer. Parce que qu'est-ce que tu veux faire quand tu es soumis en exil? Tu dis ça va passer, Bezrat Hashem. Donc tu vois, Yaakov il réagit en tant que Yaakov. Les fils, ils veulent réagir en tant qu'Israël. Ici, si on vient, on fait quelque chose, t'as ta salle qui rentre dans le village et qui va les éclater, hein, y a pas de problème.
Mmh. Ça va? Mais en vrai, le mérite, il appartient au fils de Yaakov, pas Yaakov.
Le quoi?
Le mérite.
D'accord? C'est pour ça que les fils de Yaakov, sauf ils ont sauvé l'honneur d'Israël.
Mais ils se sont
énervés,
il n'y a pas une
raison. D'accord, ils étaient. Il fallait pas leur parler à ce moment-là.
Non, mais Yaakov, il a, à un moment donné, je sais pas, il n'a pas.
Dans leur brachot. Dans les brachot. Lorsque Yaakov, il va donner les brachot dans la parasha de Vayechi, eh bien, il donnera une bracha très spéciale à Shimon Vélévi. Il dira, à cause de ce que vous avez fait, j'ai compris que vous laissez ensemble, c'est chaud. Parce que vous, quand vous êtes ensemble, vous pouvez partir en cacahuète, on ne peut plus vous arrêter. Maintenant, je ne dis pas que ce que vous représentez, il faut le bannir. Au contraire. Afitsem, Achalkem be Yaakov, Afitsem be Israël. Je vais vous séparer et vous balancer dans tout le peuple juif. Comme ça, vous serez plus réunis à un endroit, mais vous serez un peu partout. Donc vous balancerez un petit peu vos idées un peu partout. Ok?
Ouais, ils se sont mariés avec qui?
Avec des filles.
Non, mais par achat, ça se distorce. Hein? Elles sont d'où les filles?
Dans le parachat, ça se distorce en histoire.
Quoi?
On est passé de Yaakov et Esav.
Maintenant, il rentre en Israël, il fait face à Shrem. Nahon. Et c'est la fin de la paracha, les amis. Parce qu'à la fin de la paracha, bah, finalement, il lui manque un fils.
Binyamin
va naître. Binyamin va naître, mais ça va être également la mort de Rachel. À ce moment-là, le peuple d'Israël est lancé, et il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et c'est pour ça que Yaakov, il pense que maintenant il peut s'installer. Ça va être ça tout le problème. Parce que tu crois que ça, c'est du Disney. La fin de la paracha, c'est du Disney, c'est le grand problème de Disney. T'as vu un film pendant une heure et demie, t'as kiffé. À la fin du film, il y a quoi? Ils se marièrent et on a beaucoup d'enfants. Et tu sais pas ce qui se passe après. Ils t'ont pas raconté les disputes, ils t'ont pas raconté le crédit immobilier, ils t'ont pas raconté rien. Tout va bien. Genre la fin de l'histoire, quand en fait ça devrait commencer. Et c'est ça tout le problème. Maintenant que Yaakov est devenu le peuple d'Israël, lui il a voulu s'arrêter, alors que c'est maintenant qu'il aurait dû commencer. Et c'est pour ça que la paracha de la semaine prochaine font commencer tous les problèmes de Yosef et de ses frères. Pour vérifier encore une fois quel est notre rôle.
Après, oui. Shrem, il est retourné chez ses parents ou pas?
Il passe un petit coup, dire bonjour, et ensuite il va s'installer.
Il est à côté de chez eux.
Ouais, c'est jamais loin Israël. Oui.
Quel âge il avait à peu près Yaakov quand il est revenu en Israël?
Quand il revient en Israël, attends, je vais te dire. Je ne me rappelle plus.
À peu près.
Bon, il devait avoir dans les. Bah, si. 98, 99.
Bah, peut-être que. C'est pas le fait qu'il soit vieux,
puis
ça me dérange, mais il a fait énormément de choses
en sa vie.
Je me demande si
c'est
le truc de ses fils de prendre le. La relève, entre guillemets.
Ça a l'air.
Ouais,
c'est encore lui qui gère pour l'instant.
Pour le fait que lui, il
s'installe. Parce qu'il a décidé de continuer à gérer et de se poser. C'était pas le moment de se poser, en fait.
Donc lui, il pouvait pas se poser.
Non. Maintenant les filles, oui.
Pourquoi on ne reçoit pas le nerf sciatique si ça s'est établi il y a encore
une fois? Ah, il s'est établi, mais il a été frappé.
Ouais, mais on a dit que c'était une prophétie alors.
D'accord. Parce que c'était quoi cette frappade? C'est quoi ce moment où il a été frappé? Eh bien, ce moment où il a été frappé, c'était le risque de nous faire perdre l'identité pour laquelle on se bat. Et donc, on n'a pas le droit de manger guidanaché. Guidanaché en français nerf sciatique, mais en hébreu, le lien qui nous empêche d'oublier. Neshia, c'est l'oubli.
Et quoi, par une strale, on mange pas aussi?
Ouais, on va pas manger du bon.
C'est dans la...
Dans le mien, ça dit, hein,
je sais pas,
mais en Israël, ils sont capables, les shrotim, de l'enlever. Alors qu'en France, ils savent pas l'enlever. Et donc,
c'est pour ça que
toute la partie basse de la bête, on les vend au goyim. Ah, oui, ça nous fait perdre un argent fou. Juste avant de vous laisser...